Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'armée française qui s'apprête à recruter des dessinateurs de science-fiction capables d'anticiper les guerres du futur. C'est le projet un peu fou du ministère de la Défense. On vous en dit plus dans un instant. Le gouvernement met la main au portefeuille pour les commerçants du Pays Basque touchés par le G7. 350 000 euros, bien loin du manque à gagner selon les intéressés. Dans ce journal également, révélation dans le volet français de l'affaire Jeffrey Epstein, du nom de ce financier américain, accusé de trafic sexuel et qui s'est suicidé cet été. Son appartement parisien a été visité la semaine dernière. Où en est l'égalité salariale dans les entreprises de plus de 250 salariés? Un index nous permettra bientôt de le savoir. Précision du service économique et puis du cinéma pour terminer avec le dernier James Gray à la Mostra de Venise.
Je vous rappelle que l'invité d'Ali Badou dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui l'écrivaine Fatou Diome. Elle publie Les Veilleurs de Sangomar aux éditions Albin Michel.
France Inter.
Et quand l'armée, donc, Sébastien, tente d'imaginer les menaces militaires à venir grâce à des artistes.
On ne sait pas encore si la Grande Muette entend recruter Enki Bilal, par exemple, mais c'est sans doute à ce type d'univers futuriste qu'elle pense pour ce projet tout à fait inédit. Des soldats bioniques, par exemple, des drones aux ailes d'oiseaux, mettre la science-fiction au service des généraux 5 étoiles pour donc préparer les combats du 21e ou du 22e siècle. D'ici la fin de l'année, l'armée française va faire appel à plusieurs auteurs spécialisés en SF. Les précisions de Yann Gallic.
Percer le mur de l'imaginaire, échafauder tous les scénarios possibles, même les plus impensables, telle sera la mission de la Red Team. Cette petite équipe d'une dizaine de personnes maximum rassemblera des dessinateurs, des auteurs de science-fiction et des spécialistes de l'anticipation.
Nous, notre but, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas de barrière mentale, qui sont capables de sortir des choses complètement délirantes, de pouvoir avoir une créativité différente de ce qu'on a l'habitude de faire au sein du ministère des Armées.
Emmanuel Kiva dirige l'agence de l'innovation de défense au ministère des Armées. C'est lui qui est à l'origine de ce projet.
Vous demandez à un ingénieur de dire c'est quoi le char de demain. Le char de demain, il aura peut-être, une arme laser. Il aura peut-être des chenilles spécifiques. Mais c'est un char. Si je demande à un dessinateur de science-fiction c'est quoi le char de demain, il va peut-être me faire quelque chose d'hybridé entre le vivant, l'électronique. C'est ça qui est intéressant.
L'astrophysicien Roland Lehoucq sera chargé de coordonner cette équipe dont les missions resteront secrètes.
C'est tout à fait nouveau, c'est une tentative qui est faite par la Défense d'avoir cette réflexion sur le futur. Les deux seuls endroits où on essaie de penser le temps long et d'agir sur le temps long, c'est la science fondamentale et l'armée.
Il y a déjà eu de nombreuses candidatures pour rejoindre la Red Team. Au début, les nouvelles recrues ne travailleront pas à temps plein, mais si l'expérience s'avère concluante, l'armée pourrait engager une équipe permanente d'auteurs de science-fiction.
La science-fiction au service de l'armée, c'était un reportage de Yann Gallic.
Il est 7h33, Sébastien. Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron, indemniser les commerçants touchés par le G7.
Un G7 qui a bloqué les villes de Biarritz, Hendaye ou Bayonne pendant 3 jours. C'est chose faite donc depuis hier avec un chèque de 350 000 euros, annonce faite par la secrétaire d'État à l'économie et aux finances, Agnès Pannier-Runacher.
Évidemment, on n'a pas vocation à indemniser des grands groupes, c'est-à-dire des magasins de grandes enseignes pour lesquels ces 4 jours de chiffre d'affaires représentent probablement 0,0001% du chiffre d'affaires groupe. Priorité aux indépendants, priorité à ceux qui ont été les plus contraints et définition d'un dispositif avec des critères qui soient les plus équitables possibles, mais qui ne soient pas centrés uniquement sur les zones rouges de Biarritz. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de commerçants en difficulté parce qu'il y aurait eu le G7.
350 000 euros, une enveloppe jugée un peu courte toutefois par Serge Istek, le président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Biarritz, qui estime le manque à gagner à bien plus que cela.
Non, elle ne sera pas suffisante. Je pense que ça va se chiffrer à plusieurs millions. J'ai pas ma calculatrice en tête, mais je pense que ça, c'est juste une amorce parce que la facture, elle sera beaucoup plus importante. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté politique d'aller vite. Il y a eu une belle réactivité. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir.
On reste dans le milieu des entreprises avec maintenant la question de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Après les grandes entreprises de plus de 1000 salariés, c'est au tour des entreprises de plus de 250 salariés de commencer leur évaluation avec un index imposé par le gouvernement. Les entreprises qui auront moins de 75 sur 100 à cet index devront rectifier le tir dans les 3 ans sous peine d'amende. Une obligation de transparence qui entre en vigueur ce dimanche. Claire Pierre Chaudière.
Compiler des tas de données salariales, puis comparer femmes et hommes par groupe de même fonction et de même âge. L'exercice a pris une petite journée, explique Christine Reynaud, DRH chez Solustil, société de tôlerie industrielle en région lyonnaise. Et voilà le résultat.
On a constaté qu'on avait un écart de rémunération sur une catégorie de personnel, le personnel ouvrier, un écart de rémunération en faveur des hommes. Donc on a décidé de retravailler dessus pour revoir les rémunérations.
L'entreprise obtient tout de même une bonne note globale, 88 points sur 100, meilleure notamment sur l'accès des femmes aux promotions. Pour cette deuxième vague, un chiffre inquiétant se profile à nouveau, note Hélène Avignon qui coordonne les résultats pour la Bretagne au sein de la direction du travail. Le nombre de sociétés qui ne respectent pas l'obligation d'augmenter les femmes à leur retour de congé maternité.
Le tiers, pour l'instant, des répondants, c'est la loi, mais les entreprises ne se rendaient pas compte. Je pense que c'est une prise de conscience. Il y a des marges de progrès.
En matière de plafond de verre aussi, par exemple, les 10 plus hautes rémunérations sont encore souvent très masculines. La chasse aux retardataires n'ayant pas publié leur index démarre lundi. Des entreprises fortement incitées à jouer le jeu de la transparence en ne cachant pas leurs notes au fin fond de leur site internet.
Claire Chaudière, comment faire face aux difficultés des entreprises françaises à recruter? Selon une information des Échos, Pôle emploi s'apprête à augmenter de 25% d'ici le 1er janvier ses effectifs de conseillers dédiés aux entreprises spécifiquement, soit 1000 personnes de plus. Leur mission, s'attaquer aux offres d'emploi non pourvues. Au bout de 30 jours, un projet d'embauche sur deux est jugé difficile en France par Pôle emploi.
Et à 7h37, on passe à l'affaire du financier Jeffrey Epstein qui rebondit en France. Sébastien, c'est une information de nos confrères de France Info.
Deux jours avant sa mort en prison, cet été, le multimillionnaire américain, poursuivi pour de nombreux viols et agressions sur mineurs, avait confié tous ses biens à un trust, une structure totalement anonyme aux États-Unis. Or, on apprend que ce trust a demandé à visiter l'appartement parisien d'Epstein la semaine dernière. Une visite qui pose question, Stéphane Père.
Oui, une mystérieuse visite en date du 21 août dernier, soit deux jours seulement avant l'ouverture de l'enquête en France. C'est l'homme à tout faire de Jeffrey Epstein, un franco-brésilien que France Info a rencontré, qui est passé dans l'appartement du millionnaire Avenue Foch, un appartement dont il a les clés. Selon nos informations, cet intendant était directement mandaté par le Trust 1953, le fameux Trust posthume de Jeffrey Epstein, dont les bénéficiaires restent secrets. L'objet de cette visite pose évidemment question. Simple visite de routine ou possible disparition de documents compromettants avant le passage des enquêteurs français, l'appartement de l'avenue Foch était en tout cas fréquenté par de très nombreuses femmes, dont certaines avaient des relations tarifées avec le millionnaire, explique l'intendant, sans qu'il sache si elles étaient mineures ou non. Autre information, l'appartement disposait d'une salle de massage construite sur mesure, comme il en avait aménagé dans d'autres de ses habitations aux États-Unis. Une salle de massage privée, dans laquelle le millionnaire se faisait masser jusqu'à 4 fois par jour quand il était à Paris. De sources policières, malgré des demandes répétées, le FBI n'a encore fourni aucune information aux enquêteurs français. Et la perquisition de l'appartement du millionnaire est légalement impossible sans un mandat américain.
Stéphane Père, plus que 3 jours avant la rentrée scolaire en France, Zoom ce matin sur les élèves réfugiés pour qui la scolarité est souvent un luxe. En effet, sur les plus de 7 millions d'enfants réfugiés dans le monde, 3,7 millions, soit plus de la moitié, ne vont pas à l'école. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU publie aujourd'hui son 3e rapport sur l'éducation des réfugiés avec un constat central, Eric Biegela, ce sont surtout les adolescents qui sont exclus de la scolarité.
Les réfugiés en âge scolaire les plus jeunes suivent effectivement une scolarité pour les 2/3 d'entre eux. Souvent, il s'agit de cours dispensés dans des camps, en dehors du cursus scolaire normal des pays d'accueil, dans des classes surchargées, mais au moins, ils connaissent un embryon d'éducation. C'est dans la tranche d'âge au-dessus, celle des adolescents, en âge d'être au collège ou au lycée, que le bas blesse le plus. Selon le rapport du HCR, seul 1/4 de ces adolescents parviennent à suivre une scolarité. Plusieurs barrières viennent les en empêcher, précise Céline Schmitt, elle est la porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU.
La première était une barrière matérielle. Il n'est pas rare, dans les situations dans lesquelles on travaille, d'avoir un professeur pour 100 élèves. Donc pas assez de salle de classe, pas assez de professeurs. Deuxième problème, la langue. Il parle peut-être une autre langue et donc il faut organiser des cours de rattrapage de langue. Et l'autre frein est aussi la situation dans laquelle se trouve la famille, qui n'aura peut-être pas les moyens de permettre aux enfants d'aller à l'école et qui parfois aussi demande aux enfants de contribuer à la vie de la famille, y compris par du travail.
La majorité de ces réfugiés en âge d'être scolarisés, soit 2 900 000 enfants et adolescents, se répartissent en fait sur 5 pays seulement, tous mitoyens des zones de crise. La Turquie, le Liban, le Pakistan, le Soudan et l'Ouganda, c'est là qu'il faudrait en priorité écoles et professeurs.
En bref, à l'étranger, la guérilla des FARC va-t-elle reprendre en Colombie? Le président colombien entend maintenant lancer une offensive contre les anciens chefs rebelles qui ont décidé hier dans une vidéo de renouer avec la lutte armée. Bogota qui a aussi promis 880 000 dollars de récompense pour la capture de chacun des dissidents.
Et direction Venise, Sébastien, pour terminer avec la projection hier soir du dernier film de James Gray à la Mosca.
L'un des films les plus attendus du festival italien, Ad Astra, avec Brad Pitt dans le rôle d'un astronaute en partance pour Neptune. Un film de science-fiction qui n'est pas sans rappeler le 2001 de Stanley Kubrick et qui devrait séduire les amateurs du genre. Corinne Pellissier l'a vu pour nous.
Dans un futur proche où l'on se rend sur la Lune comme on irait à Tokyo, Brad Pitt, astronaute émérite dans le rôle de Roy McBride, a été recruté pour une mission secrète, retrouver la trace d'un équipage embarqué il y a 30 ans pour Neptune et conduit par son père. Un film en apparence conforme au classique du genre, des courses-poursuites sur la Lune où on a pesanteur, des attaques de rebelles, mais à la sauce James Gray, au service d'un personnage complexe et tiraillé comme souvent dans ses films, entre l'envie d'aimer ou détester un père trop absent, le sauver ou l'anéantir.
Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire.
Bien sûr que les gens vont comparer, mais je n'utilise pas ces codes juste pour en mettre plein la vue. Ils servent une quête très personnelle. Toutes ces grandes questions m'habitent.
Veuillez commencer votre expertise psychologique.
Et si James Gray assume ici l'influence esthétique d'un Kubrick ou d'un Cuaron à travers des images d'une beauté sidérante, le grand sujet du film est lui porté par Brad Pitt, implacable de solitude.
Ce rôle, je l'ai vraiment puisé au fond de moi, mes blessures, mes doutes, mes regrets, pour faire sortir toute l'authenticité de cette solitude.
Qu'il y ait ou non au final une forme d'intelligence dont l'espace importe peu, le film est une réussite totale, en forme d'invitation à la quête de soi. À la Mostra, Corinne Pellissier, France Inter.
Ad Astra de James Gray avec Brad Pitt, sorti du film dans les salles françaises le 18 septembre prochain.
Merci Sébastien Legénie. Et nouveau point route, Pierre-Antoine Lefort, prudent, soyons attentifs sur la 42.
Oui, quand on vient de Lyon et que l'on roule vers Bourg-en-Bresse par exemple, à hauteur de Pérouges, une voiture est impliquée dans un accident. Elle se trouve en plein milieu de la chaussée sur la voie centrale. Les gendarmes sont sur place. En région parisienne, ça coince sur la 86 externe. Dès le tunnel de la Courneuve jusqu'à Villeneuve-la-Garenne. Toujours à cause de cet accident entre deux voitures et un camion, vous mettez 3 quarts d'heure pour traverser cette difficulté. Le pied sur le frein. Enfin, sur l'A4 à la sortie de Paris, à Logne exactement, à cause d'une camionnette et d'une voiture accidentée, la voie de gauche est fermée. 45 minutes de ralentissement donc sur l'A4, presque autant sur la francilienne extérieure jusqu'au lieu de l'accident.